Salut à tous et bienvenue dans Les Jardinières. Comme chaque samedi de bon matin, on débute le week-end ensemble en parlant jardinage. Et puis comme chaque semaine, j'ai le plaisir d'être en très bonne compagnie. Bonjour Sophie.
Bonjour Stéphanie. Et oui, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette émission. Il est encore tôt et pourtant, nos jardiniers du jour sont bien là avec nous. C'est Philippe Détrat, donc horticulteur au Jardin des Senteurs à Neuchâtel, qui se fera une joie de répondre à toutes vos questions, qui est lui aussi en bonne compagnie puisqu'il est accompagné de Tom le jardinier, ce qui nous fera deux fois plus de savoir pour répondre à vos questions. Bonjour Philippe et bonjour Tom.
Bonjour.
Et nous sommes le samedi 17 novembre 2018, ça file. Les températures tombent et remontent, le ciel est souvent capricieux. Alors comment s'occuper correctement de nos plantes? Comment les chouchouter? On fait le plein de bons conseils ce matin avec Philippe et Tom.
Vos questions, vous pouvez toujours nous les poser par différents moyens. Tout d'abord, il y a le téléphone. Vous pouvez nous appeler au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous aurez ainsi l'opportunité de discuter directement avec Philippe ou avec Tom pour avoir la réponse qui vous convient. Vous pouvez également opter pour la version écrite, notamment grâce au formulaire que vous trouvez sur nos sites RFJ, RJB ou RTN.ch, ou alors par SMS. Vous écrivez le mot jardin, puis vous laissez un espace et vous tapez votre question. Oui, vous envoyez le tout au 939. Stéphanie et moi, nous ferons alors un plaisir de lire vos questions pour vous. Et si vous choisissez l'option SMS ou formulaire, n'hésitez pas à bien détailler votre question pour que Philippe Détrat et Tom le jardinier puissent y répondre le plus précisément possible.
Mais je crois que tout est dit. Merci Sophie, les jardinières. Ça commence maintenant.
Les jardinières. Sophie et Stéphanie.
Et on ouvre le bal de vos questions avec celle de Christophe de Courroux qui nous a envoyé un formulaire dans la semaine pour nous faire part de deux questions. Alors la première, il nous dit qu'il a deux pommiers et un prunier âgés d'environ 15 ans. Et sa question est, faut-il de temps en temps leur mettre de l'engrais ou du fumier? Et si oui, à quelle période? Alors Philippe et Tom, on vous laisse peut-être vous relayer pour nous répondre, surtout à Christophe de Courroux.
Alors, pour ces pommiers et ces pruniers, moi, un apport d'engrais peut se faire. Cependant, j'attendrai plutôt le printemps pour un apport de compost. Si son arbre, c'est un autre tige ou un basse tige, il peut mettre à peu près 5 cm de compost tout autour du branchage sur le sol. Puis à l'automne, il peut mettre une petite couche de BRF, donc c'est du bois raméal fragmenté. C'est par exemple, on coupe sa haie et puis on met ses branchages dans le broyeur qu'on peut répartir un petit peu sur le sol. Attention cependant, si on a des rongeurs dans son jardin, ils peuvent aller se réfugier un peu là-dessous si on en met trop et voilà.
Et il y avait une deuxième partie, hein, n'est-ce pas Sophie, à la question Christophe?
Oui, alors il y avait une deuxième partie, mais j'ai quelqu'un en ligne avec moi. J'ai Dominique de Courtemèche qui vient de m'appeler. Dominique, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, on écoute votre question, Dominique.
Alors, moi, j'ai reçu des graines de pampa et j'aimerais savoir quand est-ce que je dois les planter, si je dois les planter en pot pour commencer, puis à quelle période.
Des graines de pampa, moi je pense qu'à une seule plante, la cortaderia, c'est une graminée qu'on trouve beaucoup dans la pampa. Démarrer la culture à partir de graines, ça risque de vous faire longtemps. Moi j'en ai semé il y a quelques années, elle commence à être belle, ça fait 5-6 ans de culture au moins. Des graines de pampa, ça veut, pour moi, ça veut pas dire grand chose. Je sais pas si Tom, il a une petite idée.
Alors, je pensais exactement à la même plante, mais est-ce que vous pouvez nous décrire déjà, est-ce que vous appelez pampa?
C'est ces plantes avec des espèces de gros plumeaux.
Oui, alors, c'est effectivement ça. La personne qui vous a donner les graines, est-ce que c'est une plante qui se divise assez facilement, donc un petit coup de bêche et puis elle pourrait plutôt que vous donner des graines diviser la sienne et puis comme ça vous aurez des meilleurs résultats qu'en les semant
et plus rapide.
Effectivement.
D'accord, et puis ces graines là je peux quand même les planter, je peux essayer du moins.
Vous pouvez essayer, il y a pas grand enfin, un petit peu de patience comme dit Philippe, puis dans 5 ans vous aurez des jolis plumeaux à vos herbes de la pampa.
Ok, c'est gentil, merci beaucoup.
Merci d'avoir appelé en tout cas.
Merci pour votre appel, Dominique, au revoir.
Rien, au revoir.
Belle journée. Si vous aussi vous avez envie de faire comme Dominique, vous pouvez toujours nous appeler 0901 70 20 20 au prix de 36 centimes la minute. Et on avait donc cette deuxième partie de questions de Christophe de Kourou. Ça concerne les bulbes de tulipes, alors complètement différent des pommiers. Mais il nous dit qu'il en a planté récemment dans de gros pots qu'il a placés dans une remise à l'abri du gel. Il demande alors s'il faut les arroser de temps en temps durant cet hiver ou alors s'il faut les laisser simplement vivre leur vie pendant l'hiver et puis ils vont fleurir à partir du printemps.
Alors, les tulipes, elles supportent parfaitement bien le gel. Hein. Maintenant, c'est vrai que dans un pot, le risque de trop geler est plus important que si c'était en pleine terre. Il les a rentrées, dans une remise, j'espère qu'il ne fait pas trop chaud. Il faut savoir que ces bulbes de tulipes vont s'enraciner à environ une température de 9 degrés. Maintenant, elles peuvent parfaitement supporter un petit gel, il n'y a pas de souci. Et il faudrait effectivement, de temps en temps, s'assurer que le substrat ne soit pas trop sec. Donc, mettre un petit peu d'eau, mais attention, comme il n'y a pas de feuillage, elles ne pourront pas évacuer l'excédent d'eau. Donc, juste un peu d'eau.
Et puis, il a un petit conseil aussi, les tulipes ne supportent pas l'excès d'eau comme le dit Philippe, donc il faut regarder vraiment si le pot est percé. Ça peut vraiment éviter de faire les inonder, quoi.
Une question qui nous est venue par SMS, Pierre, qui nous demande « Quelle est la meilleure saison pour élaguer des bouleaux, des tuyas et des arbres fruitiers situés à 1050 mètres d'altitude ?»
Alors ça, une chose qui est sûre, c'est avant la reprise de la végétation. En tout cas, pour les bouleaux, parce que j'ai dû faire ça une fois une taille chez un client qui a vraiment insisté pour que je le fasse au mois d'avril. J'avais refusé, il m'a dit « c'est pas grave, quelqu'un d'autre le fera ». Pour finir, je l'ai fait, mais la sève me coulait dessus. Donc c'est pas très bon pour une plante. Donc en principe, c'est avant la reprise de la végétation, avant le printemps.
Pour tous ces arbres qu'il a dit là, c'est tout le monde est logé à la même enseigne. Bouleau, touya, arbre fruitier.
A priori, ça se passe. Oui.
Ok.
Il y a un petit adage qui dit taille tôt, taille tard, mais taille en mars pour les arbres fruitiers. Donc,
je le dis, Tom.
c'est la meilleure période maintenant jusqu'à la reprise de mars. Mais l'élagage, faire attention aussi de faire des trop grosses plaies et d'éliminer trop de branchages, on risque d'avoir moins de fruits. Donc, voilà.
7h, 8h, les jardinières.
Et nous avons donc commencé notre émission des jardinières. On a eu pas mal de questions de votre part, vous qui nous écoutez. On voit que vous êtes encore au jardin, ça fait plaisir. Et là, nous avons quelqu'un en ligne, Sophie.
Oui, exactement. On a Jean-Michel de Neuchâtel qui nous a appelé donc pendant la pause pour poser sa question. Bonjour Jean-Michel.
Bien, bonjour à tout le monde.
Bonjour.
Bonjour. Alors écoutez, donc moi, la question que j'avais, c'est, donc j'habite à Neuchâtel, j'ai un néflier, il est grand, il fait à peu près 3 à 4 mètres de hauteur, et chaque année, il fait ses fleurs en automne, il y a les abeilles qui les butinent, et finalement, toutes les fleurs, elles gèlent en hiver, et au printemps, j'ai 4 ou 5 minables petits fruits, alors que j'ai des fleurs à foison sur cet arbre. Et je ne sais pas s'il y a quelque chose que je puisse faire ou si c'est juste la question du climat, etc.
Ok, alors néflier, il y a deux types de néflier. Il y a celui qui est indigène chez nous, qui est Mespilus germanica, qui est de la même famille que les pommes et les coings. Donc en principe, les fleurs sont pas en hiver, les fleurs. Il fleurit pendant l'été, et puis il a des fruits de la taille de 7, 5, 6 centimètres actuellement. Moi j'en ai un qui est magnifique.
Ok. Mais moi le mien il est en fleurs, et puis les fruits font 3 centimètres de diamètre quand il y en a à peu près.
Et il est en fleurs quand ?
Maintenant. Enfin, les fleurs sont presque ouvertes, là. Il y en a quelques-unes qui sont ouvertes, et puis il y a eu encore des abeilles quand il faisait beau, et puis les fleurs restent comme ça pendant l'hiver, et puis certaines qui sont près du mur arrivent à finalement passer l'hiver, et ensuite l'année suivante, j'ai des fruits, mais les fleurs arrivent en fin d'été, début d'automne.
Ok. Et ça,
il est complètement déstabilisé.
Ouais, il est déphasé, ouais, à mon avis. Alors... C'est peut-être dû à ça.
Ouais, parce que hein. je l'avais, J'avais dû le couper une fois parce qu'il avait vraiment gelé. Il est reparti presque à zéro. Et puis là, il a super bien grandi. Les feuilles sont belles, mais les fleurs arrivent maintenant depuis 2-3 ans en automne.
Bah, disons, ce que vous pourriez faire, c'est peut-être passer chez moi pendant les heures d'ouverture, puis on pourrait regarder si on parle bien du même néflier déjà. Et puis, ouais. Je pense qu'il a il est juste déphasé, peut-être dû à cet été, à moins qu'il fasse ça chaque année. Puis là, il y a un gros souci, parce que vous devez avoir un microclimat extrêmement différent que chez moi.
Alors, écoutez, volontiers, ouais, volontiers.
Parfait.
Je regarderai ça, alors. Ouais, volontiers, okay. Bah, merci beaucoup.
Voilà, merci à vous d'avoir appelé.
Alors, merci, bonne journée.
Merci, bonne journée.
Merci, au revoir.
Et Sophie, je crois que vous avez également reçu une autre question, encore par téléphone cette fois-ci, mais vous avez pris note de la question.
Oui, exactement. Il y a pas mal de téléphones ce matin. Et donc, il y a Agnès de Basse-Cour qui nous a appelé, qui nous dit qu'elle a des plants de thym et de romarin. Et elle se demande qu'est-ce qu'il faut en faire maintenant. Est-ce qu'elle doit les couper ou est-ce qu'elle doit les arracher? Enfin, c'est sa question, voilà.
Alors, pour je différencierais le thym du romarin. On sait d'où vient cette auditrice?
Basse-Cour.
Oui, alors, de Basse-Cour.
Basse-Cour. Alors, je pense que je rentrerai quand même le romarin depuis. Soit dans un. Je le déplanterai s'il est planté en pleine terre, je le rentrerai à l'intérieur dans un endroit assez lumineux, parce que c'est très important pour le romarin pour qu'il passe bien l'hiver. Et puis, pour le thym, non, il va supporter facilement l'hiver s'il est dehors et s'il est planté en pleine terre.
Je rajouterai pour le romarin frais et lumineux, parce que l'appartement ne lui conviendra pas du tout, il fera trop chaud. Donc le thym, ça tient parfaitement bien au gel, là, il n'y a pas de souci. Le romarin, au-dessus de 600 mètres, ça devient toujours un peu tendu l'hiver.
Les jardinières.
Eh oui, on est reparti dans les jardinières pendant encore un peu plus de 20 minutes. Vous pouvez nous faire part de vos doutes, de vos questions ou de vos demandes particulières concernant vos jardins et vos plantes. Ce matin, c'est Philippe Détra, horticulteur à Neuchâtel au Jardin des Senteurs, et Tom le jardinier qui nous accompagne et il répond à toutes ces questions. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez.
Et vous le savez, les jardinières, c'est une émission qui vit grâce à vous et vos esprits curieux. Qu'importe votre question, vous pouvez la poser au 0900 à 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Là, vous pourrez directement vous adresser à Philippe Détra ou à Tom pour exposer votre souci. Avec Stéphanie, on se fait également une joie de recevoir vos SMS et vos formulaires que nous lisons à nos deux jardiniers du jour. Je vous le rappelle, le formulaire, vous le trouvez sur nos sites internet. Et pour le SMS, vous écrivez le mot jardin, puis vous laissez un espace et vous tapez votre question et vous envoyez le tout au 939.
Et il est 7h37 précisément. Bienvenue à vous, donc, si vous nous rejoignez dans les jardinières. Pendant la pause, nos jardiniers professionnels ont une révélation. On avait Jean-Michel. Jean-Michel, si vous nous entendez, hein, vous nous appeliez tout à l'heure concernant les nèfles. Et je crois que vous avez la solution, Philippe et Tom.
Oui, alors, il pensait à un néflier indigène dont Philippe a dit le nom latin, je ne me souviens plus, juste avant. Et en fait, il s'agirait effectivement du néflier du Japon. Et Philippe Détra va vous donner plus de précisions.
Alors, c'est une plante que j'ai eue deux fois, puis j'ai renoncé à la recultiver parce qu'elle ne supporte pas très bien le gel, en tout cas même sur Neuchâtel. Donc, c'est Eriobotria. Pour le néflier du Japon, qui est un fruit un peu exotique. Et effectivement, il est censé fleurir en hiver. Donc c'est pas très normal d'avoir une plante qui fleurisse en hiver chez nous, surtout s'il y a du gel. Donc c'est sûrement ça.
Voilà. Voilà, donc Jean-Michel, si vous nous écoutez, voilà les réponses plus précises de nos deux professionnels. Et pendant notre pause musicale Inforoute et Météo, mais on a reçu pas mal de téléphones. Et Sophie, vous avez pris les questions, on vous écoute.
Oui, alors la première question, elle nous vient de Lucienne qui habite à Bôle. Elle nous dit qu'elle a un olivier de 1,50 m dans son jardin. Elle demande si elle peut le mettre dans un cabanon pour l'hiver. Il prend beaucoup de place, savoir s'il faut faire quelque chose de spécial.
Alors l'olivier, sur Neuchâtel par exemple, l'olivier il peut résister à l'hiver s'il est bien placé côté sud, contre un mur, contre une maison ou dans un gros pot, très gros pot. À Bôle, moi je lui suggère quand même effectivement de le rentrer, mais de le mettre dans un cabanon, parfait, très frais et lumière. Et puis, en principe, il devrait résister. Ça supporte relativement bien le gel, jusqu'à moins 10, moins 15, sans problème. Maintenant, le pot, ben, voilà, plus le pot est gros et plus la plante résistera.
Avec un substrat très drainant pour le pot, comme ça, on évite que s'il y a de l'eau, s'il gèle une fois trop, ça peut aussi casser les racines parce que ça éclate tout. Donc, un substrat très, très drainant, vraiment pour l'olivier.
Et puis, pas oublier de lui donner un petit peu d'eau quand même durant l'hiver. Ça peut être long.
Oh oui.
Une deuxième question donc de Jean-Claude qui habite au Bayard. Il nous demande comment semer les graines de lys martagon. Il a aussi précisé, enfin il demande si c'est possible de les mettre dans une caissette dans sa véranda pendant cet hiver ou est-ce qu'il a meilleur temps de les planter au printemps pour que ça pousse comme il faut.
Alors, j'attendrai le printemps pour les semer. Cependant, les semis du lys martagon, c'est pas le meilleur moyen pour le multiplier. Déjà, ça prend beaucoup de temps avant de voir éclore les premières fleurs. Mais pour la multiplication du lys martagon, il faut préférer la multiplication à partir des écailles de la racine du lys, en fait. C'est le meilleur moyen. Et puis, attention aussi, le lys martagon, s'il l'a récupéré dans la nature, c'est une plante protégée en Suisse. Donc, attention.
Merci à vous deux de répondre à toutes ces questions d'auditeurs. Si vous voulez aussi poser votre question, 0901 70 20 20, 36 centimes la minute, vous pourrez parler directement à Tom et Philippe. Pour l'heure, on a reçu d'autres questions. Une de Florence qui nous a écrit un SMS à propos de son orchidée Vanda, précise-t-elle. Elle nous dit que quand elle l'a récupérée, elle souffrait de déshydratation, cette orchidée. Maintenant, après des soins, elle a bien repris, mais ses feuilles se colorent en rouge. Elle se demande donc à quoi c'est dû et puis ce qu'elle peut faire, tout simplement.
Alors, la Vanda, je vais vite rappeler que c'est la seule orchidée véritablement bleue.
Ah, voilà, c'est vrai, j'allais vous demander, c'est quoi la Vanda?
Okay. C'est la seule qui est bleue naturellement. Certaines autres orchidées bleues sont juste teintées avec de l'encre. Maintenant, si elle l'a récupérée, ça veut dire qu'elle l'a peut-être donc cette plante, elle a sûrement souffert du sec ou du soleil, ce qui expliquerait la coloration rougeâtre des feuilles. C'est une plante relativement difficile à garder. On la voit parfois dans les magasins de fleurs ou dans les jardineries, dans des grands vases sans terre, sans rien du tout, avec juste un petit peu d'humidité autour des racines. C'est une plante qui vit sur les arbres chez elle. Mm-hmm. Donc elle est épiphyte et elle n'a pas forcément besoin de terre ou de substrat.
Est-ce qu'elle est plus fragile qu'une orchidée, on va dire, lambda ?
Non, mais les orchidées, c'est quand même un type de plante qui demande on leur met des substrats, c'est-à-dire un petit peu d'écorce, du charbon ou je sais pas quoi. C'est juste pour que les plantes elles tiennent debout. Sinon, elles vivent en principe sur les branchages, sur les arbres chez elles.
On a Nadia de Pourentruy qui nous a également écrit. Elle nous dit qu'elle a planté une pousse d'Ellebore, si je prononce correctement, dans une jardinière en plastique au printemps. Et puis elle dit qu'elle s'épanouit bien dehors à l'ombre, mais elle se demande si elle doit la rentrer pour l'hiver.
Alors les Ellebore, ça s'appelle aussi les roses de Noël, à ne pas confondre avec l'étoile de Noël.
Ah oui.
Donc, c'est ces plantes qu'on voit souvent aussi en magasin chez les fleuristes et les horticulteurs à cette période, parce qu'on les rentre généralement l'hiver pour décorer nos milieux de table ou genre de choses. Donc, normalement, elles survivent même à Pourentruy jusqu'à moins 26 degrés en pleine terre, sans trop de problèmes.
À moins 26 degrés, ouais, ça résiste bien.
C'est vraiment une plante assez rustique. Et puis, si elle veut la rentrer pour essayer qu'elle fleurisse, pour la décorer son appartement, quand même pas trop chaud. Moi, je les mets dans les couloirs aussi, la nuit pour qu'il fasse vraiment pas trop chaud. Et puis bien l'hydrater parce que c'est une plante qui pousse d'abord dehors.
Et on va rester sur le thème de Noël, parce que nous avons reçu une question de Louise de la Neuville qui nous parle de son cactus de Noël. Il est vieux de 7 ans quand même et depuis cet été, il a perdu quelques branches et maintenant il a un trou dans ses branchages. Et elle nous stipule aussi qu'il n'a jamais été malade et qu'elle a toujours veillé aux conditions de sa santé. Alors il fleurit bien ce cactus, mais aujourd'hui encore, il a perdu une branche. Alors il ne semble pas malade, mais est-ce qu'il serait peut-être trop vieux ou est-ce qu'il aurait autre chose? Est-ce que finalement ça a une durée de vie, ces petites choses?
Alors, 7 ans, c'est rien. Moi, j'en ai un de plus de 20 ans qui fait bien presque 70-80 cm de diamètre, sur lequel on ne fait rien du tout. Maintenant, peut-être qu'elle ne l'a jamais taillé. Moi non plus, je ne le taille pas. Mais, si elle raccourcit les branches les plus longues, ça va forcément faire démarrer des jeunes pousses qui vont remeubler ou re-remplir l'intérieur de cette plante. Maintenant, pourquoi est-ce qu'une branche a cassé? Je ne peux pas vous dire.
Les jardinières.
On a une question qui concerne les fougères d'intérieur. C'est Camille qui nous a écrit que sa fougère d'intérieur est attaquée par des cochenilles. Elle a vu pas mal de traitements style savon noir avec de l'huile, de l'eau et de l'alcool, mais on lui a dit que c'était pas bon pour les fougères qui sont sensibles à ce genre de traitement. Elle fait donc appel à vous, Philippe et Tom, pour trouver une solution miracle.
C'est exact, les fougères sont relativement sensibles à des traitements, même les insecticides qu'on peut utiliser sur des plantes vertes dites normales comme le ficus, les fougères pourraient brûler. Maintenant, je vais lui lâcher le nom de la plante que je suppose que c'est Nephrolepis, 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 elle peut regarder sur internet à quoi ça ressemble. Si c'est bien ça, Tom suggérait de les doucher, mais moi je pense que ça suffit pas. Si c'est bien ça, elle le rase intégral et ça repart tout avec du neuf. C'est à mon avis un peu radical, mais ça marche bien.
Ouais, des fois, c'est la meilleure solution. On rase tout et ça repart. Merci en tout cas pour ces réponses ce matin, Philippe et Tom. On a reçu une autre question de la part de Dany. Il cherche le nom ou la variété d'un arbuste. Ah oui, ça c'est, je ne sais pas si vous allez savoir, on verra. Variété d'un arbuste qui donne un genre de toute petite pomme rouge de la taille d'une cerise et au goût très aigre. Alors est-ce que vous avez une idée de ce que ça pourrait être?
Eh bien, il n'était pas loin avec ces petites pommes. D'après ce que, sans photo, c'est assez difficile d'identifier.
Effectivement.
Mais moi, je pense à des pommes sauvages. Alors, ça fait des toutes petites pommes très aigres, comme il le dit. Il peut même en faire de la confiture, mais alors c'est acide. Et puis, on aime ou on n'aime pas. Donc voilà, ça peut être des pommes sauvages. Souvent, elles sont même des fois utilisées dans l'arboriculture, de la production qu'on voit dans les vallées pour polliniser les arbres des longues lignes, donc il y en a des fois en début de ligne comme ça.
Merci Tom. Et puis on a reçu un SMS juste à l'instant de José de La Chaux-de-Fonds qui nous écrit, je cite, « J'ai un ouïa depuis des années qui n'a fleuri qu'une fois. Je l'ai mis dehors dedans et cassé le bout des feuilles pour le bousculer, mais rien, à présent il est dans une véranda. »
Alors, le hoya, moi, je ne le mettrai pas dehors, déjà. C'est une plante qui fleurit très généreusement lorsqu'elle a son bon endroit. Donc, c'est une plante qui supporte un petit peu mi-ombre, mi-lumière, jusqu'à beaucoup de lumière derrière une fenêtre. Et casser les feuilles, alors, je ne vois pas trop l'intérêt, si ce n'est de la brigander. il faut trouver le bon endroit, c'est ça. Et puis pas trop arrosée, c'est une plante qui est un petit peu épaisse par ses feuilles, donc elles sont un petit peu succulentes, on dit que c'est succulent et c'est une plante un peu grasse. Voilà.
Et puis donc dehors, ça n'irait pas, vu que la Chaux-de-Fonds en plus c'est assez haut, c'est un peu frais peut-être de la laisser dehors, c'est ça?
Oui, tout à fait, surtout qu'on dit qu'à la Chaux-de-Fonds il peut geler tous les mois.
Pas faux. Du coup, c'est ce genre de...
Véranda, c'est parfait.
Ouais, et ça peut changer. Donc ça peut changer vraiment radicalement d'un endroit à un autre, par exemple, ce genre de plante. Si on le met à un endroit peut-être plus sombre, peut complètement périr et puis après changer d'attitude, on va dire, juste en le mettant dans une véranda.
Non, périr probablement pas, mais peut-être ne jamais fleurir s'il y a trop d'ombre.
Prochaine question, Fanny qui nous écrit pour nous dire qu'elle aimerait planter un érable dans un grand pot et le placer dans sa cour, une cour orientée sud, nous dit-elle, à l'abri d'un grand mur. Alors quelle variété lui conseillez-vous et comment bien entretenir cet érable dans un pot ?
Alors, je pense qu'on parle de d'érable japonais, je pense, ce qu'elle cherche. Donc, c'est un aspect décoratif pour ses feuilles. Une variété de Acer palmatum atropurpureum, donc c'est l'érable japonais qui fait ses feuilles pourpres. Dans un grand pot, ça peut le faire. Je ne sais pas d'où elle vient. Attention à bien choisir un terreau assez acide, je crois, si mes souvenirs sont bons, à confirmer. Et puis voilà, le mieux c'est toujours d'aller dans une pépinière et puis pas juste dans un petit jardin. Regardez tous les espèces qui lui plaisent le mieux et puis en ayant choisi son espèce, de demander des conseils à l'horticulteur professionnel qui pourra la renseigner.
Oui, je rajouterais que ces érables peuvent être relativement délicats selon la variété, donc il vaut mieux s'adresser à un spécialiste, pépiniériste.
Une question qui nous vient de Rose. Elle nous dit qu'elle a récupéré des boutures d'impatience d'intérieur, que ces boutures poussent en hauteur, mais elles ne fleurissent pas. Et elle se demande donc qu'est-ce qu'elle peut faire.
Des impatiences d'intérieur. Alors en principe, pour nous en tout cas, je pense que Tom aussi, des impatiences, c'est des plantes que l'on met dehors durant l'été, qui sont des buveuses qu'on dit d'ombre ou de lumière. Les impatiences de Nouvelle-Guinée pour plus de lumière, les impatiences valériana pour plutôt des endroits un petit peu mi-ombre. Il n'est pas exclu d'en avoir à l'intérieur, je pense plutôt aux impatiences de Nouvelle-Guinée. Si elle ne fleurit pas et si elle pousse très en hauteur, je pense que c'est un manque de lumière.
Tout simplement.
Il y en a une autre effet qui existe, mais ouais, elle est très peu vendue. C'est à bec de perroquet. Ça m'étonnerait que ce soit ça.
En tout cas, merci beaucoup Philippe et Tom d'avoir répondu à toutes ces questions. On en a encore une toute petite, vous savez, la petite traditionnelle de la fin. Nous sommes donc ce fameux 17 novembre, c'est le Riviera de Saint-Martin, certes, mais ça n'a aucun rapport. Qu'est-ce qu'on peut faire au jardin en ce moment ?
Alors, pendant tout l'hiver, au potager, ce que je pourrais conseiller, c'est de ne pas laisser les planches comme ça, où c'est qu'on a cultivé ces légumes sans rien. Un bon petit truc, c'est mettre des feuilles mortes dessus pour... déjà, les vers de terre vont être protégés, toute la vie dans le sol va être protégée des gros gels en surface. Autre chose qui peut être fait pendant tout l'hiver, c'est toute la plantation des arbres, des arbustes et des petites plantes à racines nues. Que ce soit les fruitiers, que ce soit aussi pour les haies. C'est le moment où c'est qu'ils sont le moins chers dans les jardineries, donc on peut profiter de les planter en ce moment-là. J'ai même vu en me baladant dans une jardinerie qu'on trouve encore des groseilliers, des cassissiers aussi à racines nues. Et il y a même une petite période de solde, donc évitez les grandes périodes de gel. Et puis on trouve pas mal de petites choses à planter. Tout ça planté maintenant, ça aura l'avantage qu'ils peuvent déjà s'en raciner pendant tout l'hiver et on évite de trop les arroser le printemps et l'été suivant.
Merci beaucoup.
C'est très bien. Petite précision, oui, quand Tom parle de planches, c'est pas des planches en bois, il pense à des plates-bandes ou à des surfaces pleines terre, qu'on appelle aussi planches en langage horticole.
Eh ben super, mais merci beaucoup à vous deux, Philippe Détra, horticulteur à Neuchâtel, Tom le jardinier, vous avez fait le déplacement un samedi matin si tôt, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions des auditeurs. Belle journée et à très bientôt.
Merci à vous, bonne journée.
Les jardinières, c'est votre rendez-vous jardinage du samedi. Et on sera donc de retour la semaine prochaine pour compléter notre carnet de petits trucs et astuces donnés par nos professionnels. Et si vous n'avez pas eu le temps ce matin de nous poser vos questions, vous pouvez le faire dès maintenant par SMS au 939 ou avec le formulaire présent sur nos sites. Et vos questions seront traitées en priorité samedi prochain dès 7h. Bon week-end, merci à tous et à la semaine prochaine.
7h, 8h, les jardinières.